Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Prendre le temps de déployer nos audaces
pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Et bonjour.
Salut, salut.
Bonjour. C'est parti pour une nouvelle émission de l'éclat des noctules. Cet après-midi, et oui, on enregistre l'après-midi, une fois n'est pas coutume, c'est Céline qui est à la technique. Merci.
Merci Céline.
Merci Céline. Et donc, c'est l'automne 2025 et on revient après une pause de presque 6 mois. C'est passé vite. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps, mais je sais pas vous. Je sais pas.
Ouais, si? Non, j'aurais pas dit, mais effectivement.
On vous a manqué.
Et il y a plusieurs raisons à cette longue pause. Surtout, on a été pas mal secoués par plusieurs mortes et morts. On voudrait rendre hommage particulièrement à Ben. À toutes les personnes qui vivent avec ces trous dans le cœur, laissés par leur morte, avec l'amour à adresser à l'invisible. Aujourd'hui, on va se laisser porter par les courants des océans, les vents et les pressions atmosphériques. On va passer de l'invisible au visible et sauter sur les nuages. Les nuages, il s'avère que c'est pas aussi moelleux que dans les jeux vidéo, et beaucoup plus habité. Comme si les dessins animés de Miyazaki rendaient visibles des sociétés miniatures. Comme d'hab, on vous emmène sur des petits chemins qu'on s'amuse à débroussailler parce qu'on va aussi parler anglais pour dire « cloud », et pour parler de harcèlement en ligne. On va militer en vous relayant entre autres un manifeste que nous ont envoyé les nuages, si si, et découvrir c'est quoi en fait ces formes grises, blanches, bleues, qui flamboient ou qui nous enveloppent de purée de pois. On s'intéresse à eux de nos places, on en récolte un peu et on leur donne la parole.
Ok, et ben pour commencer, moi je voulais vous proposer la découverte des noms des nuages, quoi, ce truc un peu dur à mémoriser. Et ben j'ai trouvé un super schéma sur Météo France, bien sûr, qui nous explique les différents nuages. Et ben comme ça, un schéma, je peux pas vous le montrer parce qu'on est à la radio, mais il y a un petit texte qui va avec et qui, moi, m'a facilité grandement les choses. C'est-à-dire que parce qu'on voudrait bien faire les gens qui savent et tout, ouais, ce nuage-là, il a telle forme, il est comme ci, il est comme ça. Bon. Alors, les nuages, ils ont 10 genres selon leur forme et l'altitude de leur base, de leur début. D'accord ? De là où ils sont le plus bas, quoi. Donc, il y a des nuages en couches. Ceux-là, ils vont s'appeler strati-machin, stratiforme, parce que c'est des couches comme des strates. Et il y a les nuages en boules. Et ceux-là, ils vont s'appeler cumuliforme, c'est les cumus machin, cumus truc, ok. Et après, selon leur altitude, ils vont avoir des noms différents. Donc, les nuages les plus élevés, ils se composent avec le préfixe ciro. Donc, ça va nous donner cirrus, cirrocumulus, par exemple, cirrostratus. Et puis, altitude moyenne avec le préfixe alto, altocumulus, altostratus. Et puis en dessous, bah, c'est cumulus et stratus. Et stratocumulus. Et stratocumulus. Ça, ouais. C'est le mélange des deux.
Ah, waouh. Là, j'ai perdu, moi.
Si j'avais l'impression d'avoir compris.
Non,
c'est
bon, ça y est. Ok.
Juste la force est devenue.
En tout cas, cumus, machin, cumulus, ils sont plutôt ronds. Stratus, ils sont plutôt longs. C'est déjà, voilà, une première base. Et après, eh ben, selon s'ils sont à différents étages, ils vont s'appeler alto cumulus ou alto stratus, ça c'est moyen. Puis après, si tu les vois encore plus haut, alors effectivement, la distance, tout ça, c'est pas facile à évaluer. Hein. Mais voilà, et ben ça va être des cirro-stratus, cirro-cumulus. Voilà. Du coup, ça fait juste qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça.
Ouais.
Tu vois ?
De base. Ouais, pas mal la classification. On aurait pu passer Miley Cyrus en musique
ah,
aussi.
Ah ouais, c'est vrai ça. Ça si, ouais, mais non. Et voilà. Et alors après, ma petite proposition, c'était aussi de vous parler de quelques nuages un peu incroyables, comme le nuage lenticulaire. Eh ben, il fait une forme de soucoupe.
Une grosse lentille.
Et ouais, une grosse lentille, exactement. T'as fait de l'étymologie, toi. Et, et donc, c'est le nuage qui est à l'origine de plusieurs, comment on dit, les gens, ils croient qu'il y a un ovni.
Ah,
ils ont signalé des ovnis à cause de ce nuage.
Il a quelle couleur ?
Ben, ça dépend le soleil. Après, la couleur, elle va changer plus par rapport à la lumière. Mais là, c'est vraiment la forme. Et la forme, elle est liée à ce qui se passe dans l'atmosphère autour. Voilà. Et alors, j'avais lu l'explication, mais bon, c'est un peu long. Et donc, t'en as plusieurs, mais et des fois, t'as des...
Il faut faire des trucs scientifiques, t'as mais faut pas exagérer.
Ouais, voilà, c'est ça. T'as des lenticulaires qui se mettent pas mal autour des sommets des montagnes. Ça fait un petit capuchon, et donc, on les appelle altocumulus lenticularis. Et des fois, capuchon aussi, on les appelle.
Ouais.
Ah, oui. C'est pas tout à fait les mêmes, mais il y en a qui font vraiment capuchon, puis d'autres qui font des soucoupes au-dessus du truc. Voilà.
Et on n'a pas les gestes, mais les gestes sont très, très
c'est important,
très éclairant.
Et après, il y en a un. Bon, il y a les traînées de condensation. Ça c'est connu. Enfin, c'est
les chemtrails.
Voilà. Mais bon, en fait, c'est des traînées de condensation. Ah. Voilà. Désolée. Et ceux
non,
qui
non,
sont...
mais pas tant que ça. Non, non. On va en parler plus tard de la mythologie des chemtrails.
Ah,
ça
merci,
vient d'un vrai truc, ouais.
Ouais. Ah bon. Ok. Bon, bah là, en tout cas, là, c'est des traînées de condensation. C'est des nuages qui font vraiment des traits, quoi. Ça fait des traits comme ça. Vous voyez mes gestes?
Ouais.
Non, vous voyez pas.
Donc
ça fait des quadrillages dans
le
ciel, quoi.
Écoutez.
Et le dernier, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais un autre qui a retenu mon attention, c'est le Mamas.
Joli nom.
Voilà. Donc en fait, ça fait des espèces de bulles comme ça. Ça fait une couche avec vraiment des ronds, enfin, comme des fois même, j'ai vu des vidéos, mais bon, tu sais jamais si c'est trafiqué ou pas, mais ça fait vraiment comme si c'était des énormes gouttes qui allaient tomber, quoi. Enfin, et du coup, Mamas, je pense, c'est plus parce que ça fait penser à des seins, en fait. Et.
C'est quoi le rapport entre les mamas et les seins?
Les
mamelles?
Ouais, bah, voilà, c'est ça.
Wow.
Bah, ça s'appelle mamas, mais je pense que c'était, oui, l'étymologie, c'est plutôt les mamelles que.
Ouais.
Et du coup, ça. Enfin, voilà, bref, ça fait un ciel couvert, c'est plutôt un stratus ou un cumulostratus, du coup, puisque c'est un mélange d'un nuage rond et d'une couche. Et ça fait vraiment des ronds comme ça, qui vont comme si ça allait tomber, quoi.
C'est ce qui fait des vagues, des fois.
Et
fois,
voilà.
On dirait, il y a des vagues.
Exactement. Et des fois, au-dessus de l'océan, ça fait vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est au-dessus de l'océan, mais on dirait qu'il y a la mer dans le ciel, quoi. Ça fait des vagues incroyables. Ouais. C'est ça. C'est celui-là.
Yes. Ça donne envie d'aller voir les photos.
Voilà. Eh bien, allez-y, c'est sur météofrance.com. Hein. Comprendre la météo, les nuages, les différents types de nuages. Mais il y aura la référence. Voilà, et après, sur YouTube, on trouve des tas de vidéos plus ou moins fumeuses. C'est pour la
private joke par rapport à
ouais,
ce
au
que
nuage
tu
et au, tu vois, la fumée.
Ah oui, fumeuse, pardon.
Bref.
Et je croyais que tu parlais des ados qui ont des vidéos qui sont dénigrantes pour les personnes non binaires et transphobes.
Ah,
que tu faisais référence à ça.
Ah non. Là,
parce que tu nous en parlais tout à l'heure.
Oui.
Hors micro, comme on dit.
Et voilà. Et bah, du coup, après, on peut enchaîner avec le son que j'avais récolté il y a longtemps de l'intérieur d'un nuage. Parce que j'étais allée au-dessus de chez nous, il y a le Roc de Toulot, qui est dans le Vercors, là, au-dessus du col de la Bataille. Et c'est un endroit où il y a quand même un gros passage de vent et de nuages. Et du coup, bah, des fois, quand on monte au sommet, on est vraiment dans le nuage. Et du coup, on avait enregistré, enfin, on avait voilà, filmé, enregistré ce moment-là. Et du coup, j'ai sorti le son pour vous mettre en... Voilà.
Dans l'immersion, dans le nuage.
Ne vous inquiétez pas, personne n'est décédé pendant cette prise de son. Non, rassure-nous quand même.
Non, personne n'est décédé, juste c'était trop fou. Il fallait se tenir tellement il y avait du vent et tout. Mmh. C'est incroyable parce qu'en fait, un nuage, c'est pas... Tu sais, quand tu le vois d'en bas comme ça, ça a l'air tout lent et tout. En fait, quand t'es dedans, c'est...
Et ouais, les gens qui font du parapente s'y reconnaîtront peut-être, ou d'autres sortes de sports. Tu passes dans les nuages régulièrement.
Oui, c'est vrai. Mmh. Moi aussi, je fais ça. Et alors, il y avait l'histoire des nuages qui accrochent les montagnes, justement.
Ouais, mais c'était après la petite musique qu'on peut écouter. Du coup, c'était la musique, une chanson qui a été écrite... dans le cadre des luttes contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Et en fait, je l'aimais bien, mais alors c'est le lien, c'est parce que c'est de l'eau, le feu, et vous voyez le feu, ben, l'eau, et du coup, ça fait des gouttelettes, et puis ça fait un nuage après, voilà.
Ouais, mais... Et on peut aussi dire que c'est de circonstance, parce que actuellement, les méga-bassines se prennent des gros tollés judiciaires, et peut-être que ça va pas durer si longtemps que ça, cette affaire.
Yes.
Donc c'est vraiment le moment d'apprendre cette chanson pour pouvoir la chanter tout le temps.
Elle est super belle.
Le drain qui vide les terres de l'eau de la tourbière avons bouché le grand trou de poussière de plastique recouvert avons débâché. Avons pris la colère, l'avons transformée en rivière. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir. Les tuyaux de ferraille et les pompes canailles avons démonté. Dans la fumée des gaz et sous le tir des armes avons crié. Avons pris la colère, l'avons transformée en rivière. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos grandit l'espoir.
Bah, du coup, c'était la voix médium et la voix haute en fond, un peu moins forte, de ce chant. Et il y en a une autre, une voix plus grave. Et puis, c'était sur le site de la chorale de Chambéry, qui met plein d'enregistrements en lien.
En libre accès, comme
ouais,
on dit.
En libre accès, voilà.
On vous mettra le lien.
Ouais.
Pour que vous puissiez l'apprendre.
C'est ça.
Et la chanter. Trop la chanter.
Oui. Voilà.
Maintenant qu'on a bien tout entendu, le bruit du nuage de l'intérieur, la chanson de l'eau.
Ben, on va rester dans la localité parce que le nuage de l'intérieur, il était assez local. Et du coup, sur les nuages locaux, alors moi, j'avais une question que je voulais poser en micro-trottoir, mais comme je suis un peu trop timide pour le micro-trottoir, je ne l'ai pas fait. Est-ce que... Alors, je vais vous la poser à vous, hein, voilà, mes cobayes. Est-ce que vous pouvez me parler d'une particularité du ciel local en termes de nuages ?
Les couchers de soleil, ils sont hyper beaux ici. Ils sont vachement plus moches en bas, dans la vallée. Je sais, parce que j'y habite.
Ouais. Autre chose. Vous avez peut-être
Les nuages sont roses dans ces couchers de soleil.
Oui. Ouais. C'est vrai. Et les falaises aussi.
Oui.
Ouais. Ouais. Bah,
il y a souvent de la brume.
Ouais, mais c'est pas loin. C'est, en fait, c'est un peu le mélange de ces deux choses. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai remarqué qu'en novembre, souvent, sauf aujourd'hui et hier, on est sous une couche de nuages comme ça. D'accord. Des fois, elle est un peu basse, et puis des fois, elle remonte, et puis donc des fois, il y a de la brume. Mais en fait, ça arrive fréquemment que quand on regarde vers le coucher de soleil, vers l'ouest, bah, y a du beau temps. Mmh. Et nous, on voit la limite de nos nuages. Vous voyez ? Hop, ils s'arrêtent. Bon, bah, moi, j'ai vécu quand même longtemps dans des zones montagneuses, pas très loin d'ici, bon, bah, on voit pas la limite des nuages parce qu'il y a les montagnes. Vous voyez ? Donc là, moi, ça m'a surpris, tu vois, de voir qu'en fait, je vois que je suis sous le nuage, mais le beau temps est pas loin. C'est à la fois très frustrant et à la fois c'est une petite fenêtre finalement. Donc, je me suis posé la question de pourquoi les nuages s'accrochent aux montagnes. Donc j'ai trouvé un document qui est avec des mots un peu comme ça, pareil. Hein, c'est encore une fois, c'est un peu scientifique, mais pas trop, mais quand même un peu. Bref. Et du coup, bah, vous m'arrêtez quand vous ne comprenez pas. Hein.
D'accord.
Du coup, ça s'appelle influence orographique sur le versant auvent. D'accord. Donc, il nous explique que lorsqu'un flux d'air se heurte à une montagne ou à une colline, il est contraint de s'élever. Jusque-là, tout va bien.
Ça paraît logique, ouais. Tu prends le mur...
Voilà, il monte, du coup. Il va vers la sortie, quoi. Donc, ce phénomène est appelé soulèvement orographique. C'est stylé, non?
Ouais.
On pourrait le reprendre, des soulèvements orographiques. Et non, ça ouais. serait pas mal.
Il y a un truc déjà.
On se prend un mur, mais nous, on se soulève.
Ouais, ouais.
Voilà.
Grave.
Mais orographique, on rajoute derrière.
Ouais, ouais.
Pour faire une distinction. Ouais. Voilà. Si le flux est suffisamment humide, des nuages se forment sur la face des montagnes exposées au vent. D'accord? Et ils sont appelés les nuages orographiques. Donc, pour nous, là, le Vercors, je pense que la face des nuages exposés au vent, c'est la nôtre. C'est cette face ouest. Mmh. Vous voyez? Parce que de l'autre côté, il y a plein de montagnes. Donc, je pense qu'il y a moins de vent. Là, c'est plus là. Oui. Il y a la vallée du Rhône et tout, tu vois?
Oui.
C'est ici, quoi. Donc, eh ben, du coup, on est sous le nuage. Vous avez compris?
Ouais.
Voilà.
Oui, si vous regardez dans mes yeux, vous verrez, il fait très beau, là. C'est assez transparent.
Donc on voit un petit schéma avec une grosse masse d'air qui longe le flanc de la montagne qui est exposé au côté du vent, voilà, et qui va se caler dessus et qui reste coincé.
Fait un petit geste de tête.
Mais pourquoi le nuage, vu que l'air il monte, il essaye de s'échapper, pourquoi le nuage il fait pas pareil que l'air, il monte pas avec l'air?
Ben, il monte un peu, mais il reste coincé, quoi.
OK.
Parce que t'as les conditions... Alors, t'es forte, hein, quand même, hein, je dois te dire. Parce que voilà. Là, c'est quand l'air stable, en altitude, il a un mouvement descendant, tu vois, au-dessus du nuage. C'est exactement ça. Donc, le nuage reste coincé. Voilà, voilà. Et qu'il y a beaucoup d'humidité dans le nuage. Donc, voilà. Et après, on en a d'autres qui vont monter, comme ça. Tu vois, là, c'est celui qui reste coincé sur la montagne.
Ouais.
Et là, t'as ceux qui vont prendre la pente de la montagne et monter plus haut. Donc ça, ça dépend. C'est si l'air, il est en altitude, il est plutôt instable et qu'il y a un mouvement ascendant, ben, ça va emmener... donc ça, après, c'est vrai que là, c'est dommage qu'on n'ait pas une personne qui fasse du parapente, parce que je pense qu'elle nous aurait bien expliqué ce genre de truc. Du coup... Le type de nuage qui se forme, il dépend de la stabilité de l'air et de sa teneur en humidité. Et l'air monte également le long de la pente sous l'effet de l'échauffement diurne, donc de la journée, hein, de sorte que l'ascendance orographique et l'ascendance thermique, donc ça, l'ascendance thermique, c'est ce qui va se passer au-dessus, si j'ai bien compris
Non, ça, c'est les courants chauds qui montent.
Ouais, voilà. Produisent ensemble des hauts cumulus. Donc là, c'est ceux qui montent comme ça. Donc c'est ceux qui font des gros champignons, là. Développés verticalement. Et après, ça pète en dessous, souvent. Non
ouais.
Donc les régions vallonnées, elles sont plus souvent nuageuses que les terres basses adjacentes. Donc tu vois, tu fais bien d'habiter là-bas, finalement.
Ah oui, tu veux dire le coucher de soleil, il est beau de loin. Quand on est dedans, c'est moins bien. Mais en fait, c'est parce que dans la vallée, c'est moins beau en général aussi. C'est pour ça que
oui,
je
mais t'as moins de nuages, du coup.
Ouais,
c'est
d'accord.
C'est ça le truc.
Ouais, ouais, ok.
Bon, voilà. Je vais m'arrêter.
Merci.
Là.
Merci. Parce que franchement, c'est costaud de s'atteler à
ouais.
expliquer les nuages à la radio sans nous perdre dans 50 000 mots trop chelous.
Tu veux dire que t'es perdu?
Mais non, mais franchement, moi, quand j'avais commencé à regarder, je m'étais dit oh là là. Pff. Et du coup, je trouvais ça trop bien que. Enfin, c'est trop bien, je trouve, comment t'as expliqué.
Ouais, je sais pas. Bon, je m'arrête là parce qu'en fait, je pourrais vous expliquer. J'avais prévu de vous expliquer plus de trucs, mais j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup. Voilà.
Moi, tu m'as perdu, hein, mais c'est pas grave.
Okay. Tu réécouteras l'émission.
Ouais, je réécouterai l'émission.
Je te passerai le document, sinon.
Du coup, on va écouter un petit son pour terminer. Tu veux nous dire
Oui, bah, je sais pas s'il y a besoin de la présenter, non
Non, c'est pas la peine.
C'est pas la peine, je crois.
Tu la connais.
Toi aussi, tu la connais.
Elle va rester dans ta aussi, tête pendant connais. Deux jours. Bon courage.
Allez.
Beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Donc vous venez d'entendre un cataclysme et on va continuer sur un cataclysme qui devrait vous inquiéter, vous qui écoutez les radios associatives locales et qui nous emmerdent profondément, qui nous en fait enrager. C'est la grosse diminution, la mise en péril du FSER, sur lequel repose beaucoup l'existence des radios associatives. Donc, parce que c'est pas fun, on va quand même faire du fun. Qu'est-ce que c'est que le FSER ? Qu'est-ce que vous avez des idées ?
Alors, attends, je prends un stylo, un papier, parce que j'arrive
oui.
pas.
Oui, F...
F...
Le fiacre.
Le fiacre, ouais.
Spécial.
Ouais.
Et élémentaire.
Ouais.
Des récidivistes.
Exactement. C'est exactement ça. C'est pas la peine de chercher, Naïs.
C'est bon, ah, c'est pas la fibre sous énergie régionale.
T'es comme sur un truc un peu connecté, quoi.
Mais oui, mais c'est parce qu'il y a le sujet d'après. Ouais, c'est pour ça que j'y pense.
Ouais. Le fil saoulé de Sainte-Eulalie en Royan.
La fontaine sur élevée.
T'as échangé.
Je vais garder le régionalement. Parce d'accord. Que le ouais, R, c'est souvent bien. Région. Ouais. C'est souvent région. Ouais.
Eh bien, c'est le fond de soutien à l'expression radiophonique. Voilà. En fait, c'est donc le financement de la production radiophonique des radios associatives. Et ce FSER est gravement mis en danger parce que dans le budget de l'année prochaine, ils veulent en supprimer 44%, ce qui ferait une économie... Ça fait plaisir, on ne fait pas de taxe Zuckman, mais on aime bien taxer les radios associatives. 16 millions d'euros, et ça mettrait en péril la moitié des radios associatives et 80% des emplois du secteur.
Et l'année dernière, il y avait déjà eu une tentative de couper comme ça, de cutter de ouf dans le budget. Et là, donc, ils remettent ça. Et en fait, ça avait beaucoup, beaucoup mobilisé les radios associatives.
Ouais.
Finalement, ça avait réussi à être abandonné. Et en fait, là, ça fait seulement un an, quoi. Et donc, en fait, par rapport aux enjeux qu'il y a, ça mobilise énormément d'énergie, énormément d'inquiétude. Pas de possibilité de se projeter. Enfin, c'est grave chiant. Plus que ça même.
Voilà, du coup...
La tempête qui nous arrive.
La tempête, l'orage, les nuages, mais pas les bons. Et donc, du coup, on vous invite à vous mobiliser vous aussi pour vos radios locales, si vous les aimez. Mais vous les aimez, c'est sûr, quand même. Et peut-être, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller sur Internet. Il y a un syndicat national des radios libres et une confédération de syndicats qui s'appelle Les Locales, qui est du coup l'ensemble des syndicats des radios associatives.
Et sans transition, on va vous lire des petits textes. C'est les nuages qui nous racontent des souvenirs. Premier texte. Je me souviens du jour. Oui, il faisait jour. Je me souviens du jour où je suis devenue. J'étais au-dessus d'une immense étendue secouée par les vents. Il ne faisait pas froid. Je suis montée haut. Nous nous sommes rassemblés. Je me souviens d'une étrange vulnérabilité, cette sensation de devenir palpable, de devenir quelque chose qui me différencie de ce qui est en dessous et au-dessus. Je me souviens, je me suis sentie entourée de toutes petites bulles partout autour de moi. Elles volaient comme ça, partout autour de moi, et moi aussi je volais, partout autour d'elle. On était crépitantes. Je me souviens d'une sensation aussi. Ça vibrait. Ça vibrait, c'était comme si je vibrais de puissance. On était puissantes. On existait. On exerçait une force et aussi on sentait celle du vent. Je devenais un nuage. On rassemblait des histoires de voyages infinis. Certaines d'entre nous s'étaient déjà croisées. On avait des souvenirs en commun. Je me souviens de l'inertie de groupe aussi. L'incertitude qui a laissé le temps à d'autres de nous rejoindre. On s'est toutes retrouvées là, comme si on avait rendez-vous. On savait d'expérience qu'il y aurait un départ, mais on savait pas quand. Alors une vague parmi d'autres est arrivée, et on a senti que c'était elle. Elle nous a saisis avec douceur et fermeté. Elle était tiède, et pour se présenter, elle nous a léché les molécules. On se sentait prête, mais on avait quand même un peu peur de ce qu'on allait devenir. En partant, je me souviens que je rêvais de grottes, des arêtes fines, des minéraux dans lesquelles je me laisserais fondre. Il y en avait qui étaient excitées par l'aventure des airs et elles se marraient en se lançant des défis d'altitude, en demandant à la vague de nous monter plus haut. J'oublie de vous dire, tellement ça paraît une évidence, c'était quand même toute une organisation. Des échanges chimiques dans tous les sens, des consciences différentes qui jouaient au bras de fer chinois pour leur place et tout. Enfin bref, c'était nous.
Je suis là, tout autour, dehors, contre, sans qu'ils puissent pour autant me tenir. J'enveloppe. C'est moi qui tiens, entoure, colle. Eux, ils sont juste perdus là, dans moi, dans la plaine aussi, sur laquelle je m'étale, la plaine que je nappe. J'ai mangé les points cardinaux et le soleil avec. Ils traquent leurs ennemis que je dissimule dans mes milliards de gouttelettes. Ils n'avancent pas et en me liant à la plaine, la boue s'est créée et elle aussi, elle colle. Là où je suis insaisissable de légèreté, elle pèse. Elle ajoute du poids à leur matériel et moi, je les perds. Ils sont pris entre ciel et terre.
Je pleus. C'est pas hyper agréable, hein, contrairement à ce qu'on dit. Ça tire beaucoup, de tous les côtés et surtout au milieu. C'est plus fort que moi, je peux pas arrêter. Au début, je pars en petites gouttes douces qui rendent les pierres un peu glissantes. Et puis ça me prend, d'un coup, des gros grelons qui font des bosses sur la tôle et un bruit vachement beau. J'en reviens pas de ce que je suis capable de faire comme bruit. Ça demande beaucoup d'énergie et j'ai réduit des trois quarts. Alors je me calme là. Je pleure. Tranquillement. C'est bientôt fini. Ça tire trop, franchement.
J'étais tranquille, à traîner dans le vent, au-dessus de la montagne, et dans les grands pâturages, j'ai vu cette petite qui me mate. À quoi je ressemble, vue d'en bas? Où s'arrêtent mes contours? Combien suis-je? Comment suis-je? Que voit-elle? À quoi pense-t-elle? Où vais-je? Je passe.
Eh bien, voilà, vous avez tout entendu, des nuages, ou presque. Et on va écouter un petit son que tu peux peut-être vite fait nous dire pourquoi tu l'aimes bien.
Violetta Parra?
Oui.
Parce que, je sais pas, ça sonne bien. Non, c'est... c'était dans la thématique météo, comme elle parle du soleil qui chauffe la peau des gens qui travaillent à la mine, dans les mines de cuivre, et des femmes aussi, parce qu'il n'y avait pas que des hommes. Et voilà.
Et la guitare.
La guitare, ouais. Non, et après, j'avais fait un petit lien dans ma tête avec le sujet d'après, parce que quand même, le cuivre, c'est quand même un matériau qu'on utilise pour tous les trucs électriques. Et du coup, comme après on va parler des clouds, ben voilà.
Thank you.
Alors, on a beaucoup parlé des nuages et du ciel.
Et vous êtes toujours sur l'éclat des noctules, sur Radio Royan 93 FM. Et avant d'écouter la musique, on a lu des textes qu'on avait écrits. On s'était fait un petit atelier d'écriture sur les nuages pour préparer l'émission.
On vous a pas dit que c'était nous parce qu'on avait un peu les pétoches. Voilà. Et maintenant, on va parler des nuages, mais pas tout à fait des mêmes nuages que ceux du ciel. On va parler des clouds, des nuages en ligne de l'Internet. Alors, ça paraît un peu fou de s'interroger sur les usages du numérique, parce que maintenant, c'est devenu tellement une évidence, tellement une part de notre réalité quotidienne, que s'intéresser à ça, finalement, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut passer à la trappe, quoi. Je sais pas si ça vous fait ça, ou... On parle des mésusages, mais de l'utilité et de ce que ça veut dire dans le fond, sur...
Non, on remet pas du tout en question l'outil, quoi.
Voilà, c'est ça, hein. Mm-hmm. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire un gros rapport sur l'impact mondial de la production des outils numériques, terres rares, exploitation des fonds marins, ce à quoi tu m'invitais tout à l'heure, mais je fais pas les émissions scientifiques, moi. Je vais pas faire. voilà. Usual business du capitalisme, ça exploite, ça tue, et particulièrement toujours les mêmes, les personnes déjà dominées dans notre société patriarcale, xénophobe, raciste, transphobe, etc. Je ne refais pas la liste, mais vous voyez tout ce que je veux dire. Mais quand même, j'avais envie qu'on parle rapidement des conséquences du stockage de données sur les clouds et aussi dans les centres de données, donc ce qui est physique, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que la consommation électrique des centres de données s'élève à 200 TWh par an. Donc moi, je ne sais pas du tout ce que ça fait en termes de quantité, mais c'est autant qu'un pays de la taille de la Corée du Sud. Et en fait, les serveurs cloud émettent près de 100 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est une quantité comparable à celle du secteur aérien.
Ah ouais.
Donc ce stockage de données contribue directement au réchauffement climatique, mais pas que. Vous avez envie de dire quelque chose ?
Ouais, à niquer des vies, ouais.
Mais oui, mais aussi ce que je voulais vous dire, et c'est que là, c'est là où il y a le deuxième niveau qui, je trouve, est complètement fou, c'est qu'en fait, ça chauffe tout ça. Il faut refroidir tout ce bazar. Mmh. Et donc, en plus, il faut une grande quantité d'eau. Quantité d'eau qui, ça ne vous aura pas échappé, manque déjà pas mal à nous les humains, et encore plus aux animaux dont c'est le milieu naturel. Voilà, j'avais juste envie qu'on se...
Enfin, c'est un peu d'écologie, quoi.
Qu'on prenne un petit peu de temps pour penser, que je fasse un petit peu ma vieille conne, parce que je trouve qu'on est un peu noyé sous les informations en ce moment, et souvent par des conneries réactionnaires et fascistes qui nous empêchent de penser, de prendre du recul sur ce qui nous arrive, et de ne pas nous laisser le temps de réfléchir aux choix qu'on a envie de faire tous ensemble, de quel monde on vit, et puis si on passe bien l'énergie qu'on a collectivement dans les choses qui sont importantes. Parce qu'en fait, donc ça consomme énormément d'énergie, énormément de temps, et ça a un gros impact quand même sur toutes nos vies. Et là, je fais un petit placement livre, parce que je voudrais vous inviter à lire un livre, si vous avez le temps, sauter dans la première librairie, la première bibliothèque que vous trouvez, et demander Cyberpunk d'Asma Mala, qui donc est un livre qui a le mérite de penser au moment même le monde qui part à la dérive pleine balle, et qui, je trouve, permet de sortir un peu de la sidération et du sentiment d'impuissance qu'on a face à tous les gros faf et tout ce qu'il raconte sur la vie. Et je dirais pas le nom de l'autre dont on parle trop, de toute façon. Voilà.
Cyberpunk.
Ok. À ce moment-là.
Moi, ça me faisait penser aussi à Anna Bednick, qui a écrit sur l'extractivisme. Voilà.
Celle-là, je la connais pas, mais je vais.
Je peux vous le prêter, mais c'est pas le mien. Mais je vais bientôt le rendre.
Petite annonce.
Toi qui écoutes, demande le livre que tu cherches depuis des mois.
Et du coup, tu avais préparé une interview de quelqu'un qui se penche un peu sur ces sujets-là ?
Pas vraiment, non. Parce que le lien, là, c'est qu'on parlait des effets néfastes et des usages intempestifs de la technologie. Et je voulais vous proposer une interview qui n'a pas vraiment directement à voir avec les clouds en soi, on va dire, et leur impact écologique, mais plus sur l'impact social. C'est une interview qui j'ai faite pas toute seule, que j'ai faite avec Sève et avec la traduction de Palo. Et la personne qui répond voulait rester anonyme, donc c'est une personne très sympathique et nous avons réalisé cette interview au milieu des vignes et du rare raisin pendant les dernières vendanges. Et cette personne travaille dans la coordination d'associations basées à Barcelone et qui s'occupe de cyberharcèlement envers les femmes et les minorités de genre. C'est une asso qui s'appelle Femblock. J'avais envie d'en parler parce qu'en Espagne, le budget pour les politiques qui luttent contre les violences faites aux femmes est 3 fois supérieur à celui de la France.
Wow.
Et il y a des articles qui disent, voyez-vous, ça a des conséquences directes. Par exemple, il y a eu 135 féminicides en France en 2024 et 45 en Espagne.
Mais oui.
Voilà. Après, on peut dire que tout n'est pas égal par ailleurs et tout ça, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait des pays qui décident d'investir tant. Toutefois, quand on en avait parlé, je fanfaronnais un peu en disant « Oui, c'est une asso qui fait ça, c'est la seule au monde, incroyable !» Et l'analyste m'a dit « Attends, il y a peut-être d'autres. » Et en effet, il y en a d'autres. Je vais maintenant les citer. Il y a des assos comme Échappe, qui propose des guides en ligne pour se déconnecter des personnes qui harcèlent. Féministe contre le harcèlement, qui fait un travail plus de plaidoyer et de récolte de témoignages. Respect Zone, qui est présent dans plusieurs pays d'Europe et qui propose de l'aide juridique. Et celui que tu avais dit aussi, Stop Ficha, qui repère et dénonce les comptes qui diffusent des contenus sexuels sans consentement des personnes citées, et particulièrement, c'est pour des personnes mineures.
Ouais, il me semble.
Voilà. Bref, il y a plein d'initiatives de choses super, et avec la vague de gros mascus qui déferlent sur les réseaux, il en faudrait plein d'autres de ces armes de solidarité massive. Donc voilà, j'avais envie qu'on écoute un peu ce que ça donne.
Bueno, en el mundo en que vivimos ahora, la realidad es que la tecnología está dentro de nuestro mundo y nuestra vida, y esto hace
dans le monde dans lequel on vit, la réalité, c'est que la technologie est au cœur de nos vies. Et ça fait que la violence, celle qu'on trouve sur les réseaux sociaux maintenant, est bien différente de celle qu'on connaissait avant. Maintenant, on a un panorama quotidien de violence, agression, harcèlement sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Instagram, mail. Et c'est très difficile de se défendre de cette violence, parce que quand quelqu'un dénonce les agressions qu'elle subit et qu'elle décide de dénoncer ça à la police, eh ben, la police ne sait pas comment l'aider réellement. Elle ne sait pas comment apporter du soutien. Donc c'est important que nous soutenions les personnes qui subissent ces violences. Cette violence, dans notre cas, c'est souvent le fait d'hommes blancs, hétérosexuels, sur des femmes militantes et des mineurs. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. En Espagne, d'où je viens, il y a un réseau qui nous permet de faire face à ces violences avec les femmes ou les personnes qui ne sont pas des hommes hétérosexuels, blancs, etc., qui nous permettent de les aider. Et c'est hyper important dans le monde dans lequel on vit de vraiment répondre à ces agressions. Et donc, il se passe quoi quand une femme se fait harceler par Internet? Elle vous appelle, elle se met en contact avec vous, et vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Bon, quand une femme ou une personne qui n'est pas un homme cis, blanc, etc., comme je le disais, se met en contact avec l'association, on met d'abord l'accent sur l'aide psychologique. Et puis après, on voit où elle en est sur le plan technologique. Son téléphone, ses mails. En gros, on essaye de voir ce qui se passe. Et puis, on voit comment on peut répondre sur le plan technologique. Ce qu'on peut paramétrer là et comment se défendre. Voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'autodéfense technologique pour que ça n'arrive plus.
Vale, y entonces las que trabajan ahí, que son hay psicólogas, hay, o sea, que
les personnes qui travaillent là-bas, c'est des psychologues ou
spécialistes de.
C'est une association où travaillent des spécialistes de psychologie, des personnes qui connaissent bien les réseaux et la technologie aussi. C'est un champ large où travaillent plein de professionnels différents, pas que des psys, parce que la réponse doit aussi être technologique et juridique. Du coup, concrètement, est-ce que la réponse est de bloquer des comptes, de chercher des photos publiées? Oui, quand une personne est en train de te harceler par WhatsApp, par mail, par Telegram, d'autres réseaux, tu cherches ce qu'il se passe, tu essayes de tirer un fil et de chercher des preuves.
Y desde ahí pues encontrar un poco de esas pruebas o ese bloqueo en las redes, ¿no? Como intentar buscar esas cosas que hay ahí.
Vale. Y combien de personas trabajan là-bas?
Es que para mí.
Pour moi, le plus important, c'est que, vu que tout ça n'est pas très concret, très réel, c'est qu'on fasse ça d'une manière autonome et militante. Les entreprises, elles, cherchent une rémunération, de l'argent. Elles ne fournissent pas de l'aide. Nous, on ne cherche pas le gain. Du coup, c'est petit. Au maximum, on arrive à être 10 personnes. Ça reste très petit parce que c'est exigeant politiquement, éthiquement.
Que lleve a esto. Entonces es muy pequeño, no llega a 10 personas.
Et comment
vous financez l'association?
Las asociaciones se financian a nivel.
Ce sont surtout des subventions. Étatique. C'est ce que je disais, c'est des accompagnements gratuits, donc on ne cherche pas à être payé. Donc toi, tu ne cherches pas à être payé, ce que tu cherches, c'est des subventions pour faire fonctionner l'association, pour que ça reste du soutien. Et comment les gens vous connaissent?
Claro, la cosa es que es difícil porque que te conozcan.
C'est difficile pour que les gens te connaissent. Le bouche à oreille, il y a les institutions aussi qui rendent visible notre action. Il y a pas mal de pays dans lesquels il y a quand même une attention à la violence faite aux femmes. Donc il y a des institutions. Quand il y a une question d'agression sur les réseaux qui redirige vers nous, il faut se rendre compte que beaucoup de personnes sont harcelées. Nous, par exemple, on nous harcèle en permanence. Qui ne s'est pas déjà fait harceler par un ex, un mec, peu importe? Et combien de personnes répondent à ça ou osent demander de l'aide? Personne. Par honte, par peur. Donc c'est difficile que les personnes arrivent jusqu'à nous. L'important, c'est que partout dans le monde, il existe quelque chose pour faire face. parce que la police n'est pas là pour
nous faire frente porque la policía nunca nos va a ayudar, la policía no está para nadie.
Quand tu es une femme harcelée par ton ex-mari, ton ex-copain, n'importe qui, c'est souvent des ex, des hommes blancs, cis, hétéros, que tu vas à la police ou peut-être pas.
Tu vas à la policía y no te dan una respuesta. No te dan una respuesta de nada. Simplemente...
Moi, je pense que dans le monde dans lequel on vit, où la violence numérique est présente, il nous faut d'autres armes de défense. D'autant que le problème risque d'être de plus en plus grave avec le développement technologique.
Thank you.
Vous avez dû reconnaître Kate Bush et la chanson Cloud Busting qui date de 1985 et qui est une chanson un peu dingue-dingue comme pas mal de chansons de Kate Bush. Et là, le lien avec notre histoire de nuages, c'est qu'en fait, elle raconte Cloud Busting, c'est une machine construite, vraiment construite dans la vraie vie par Wilhelm Reich, qui est un psy. Un peu foufou, qui a fait des grandes théories sur l'âme humaine et comment est-ce qu'on pouvait tout expliquer dans la vie avec une seule théorie. Et aussi, il a construit des machines pour faire pleuvoir, enlever les nuages. Et c'est son fils qui a écrit une histoire là-dessus. Et donc, Kate Bush s'inspire de cette histoire-là. Et donc, dans le clip, elle est le fils de Wilhelm Reich. Et bon, voilà. Kate Bush qui est revenue à la mode depuis pas longtemps et que moi je connaissais pas et que je découvre peut-être que vous aussi et vous avez de la chance.
Oui, si vous connaissez pas, allez-y. Hein. Ouais. Ça va vous changer la
sans
vie.
Sans modération.
Et Wilhelm Reich, il a aussi pas mal permis de faire avancer différentes pratiques thérapeutiques et psychosomatiques. Et ce n'est pas du tout cette histoire qu'on va raconter maintenant.
Non.
Parce que maintenant, on va raconter l'histoire d'où naissent les nuages. C'est l'histoire du grand cycle de l'eau.
Oh.
C'est l'histoire des océans. C'est l'histoire des courants des océans. Et oui. Alors sur la Terre, il y a toujours à chaque instant de l'eau en mouvement qui circule. Là où il y a des glaciers, au niveau des pôles, l'eau est très salée car le sel ça gèle pas. Quand l'eau des glaciers fond, elle est très froide, alors elle descend au fond. Et elle se met en mouvement.
Et là aussi, il y a des petits mouvements qui sont très importants avec les mains qui descendent au fond.
Là où il fait le plus chaud, au niveau des tropiques, des immenses masses d'eau chaude remontent à la surface et rejoignent les pôles, là où il y a les banquises. Ces courants d'eau froide de fond et d'eau chaude de surface se promènent dans toutes les mers et les océans. Et ils influencent l'air, les mouvements, les courants de l'air. Il y a des niveaux de salinité différents selon les endroits. Cette grande danse de l'eau qui se fait circuler elle-même constitue un équilibre majeur de notre maison vivante. Dans ces océans, il y a le grand peuple de l'eau. Avant de vous les présenter, il faut que je vous raconte quelque chose. Le terme plancton, dérivé du grec planktos, signifie errant ou flottant et englobe une vaste et diverse collection d'organismes aquatiques, collection c'est tout pourri comme mot, mais passons, qui dérive avec les courants et les marées. On trouve du plancton dans presque tous les milieux liquides de la planète, les océans, les rivières, les lacs, les marais, les sources, les étangs, les flaques d'eau et même les gouttelettes de pluie. Bien que la plupart soient microscopiques, certains grands animaux se qualifient également comme plancton en raison de leur incapacité à nager activement. Les bactéries et les virus occupent l'extrémité la plus petite du spectre du plancton, tandis que certaines méduses, dont certaines peuvent dépasser 40 mètres de long, se trouvent à l'autre extrémité. Le plancton se divise en deux grandes catégories, le phytoplancton, qui ressemble à des plantes, et le zooplancton, qui ressemble à des animaux. Les cyanobactéries et d'autres phytoplanctons, microbiaux, ce sont eux qui font à l'origine, qui sont les plus anciens êtres sur Terre qui font la photosynthèse. Et donc, ils contribuent à environ la moitié de la photosynthèse mondiale. Ils fabriquent la moitié de notre oxygène. Les plantes du grand peuple de la Terre produisent l'autre moitié. Tout comme les plantes forment la base de la chaîne alimentaire sur la Terre, le phytoplancton nourrit les océans. C'est l'histoire du phytoplancton, donc. Ces petits chimistes géniaux et ultra puissants, mais pas avide de pouvoir, donc, et ben, contrairement aux humains puissants, ils cherchent pas à imposer de fascisme néo-pop pour garder leurs privilèges au détriment des autres, puisqu'ils sont pas cons, et qu'ils savent qu'on est tous interdépendantes, puisque c'est grâce à eux qu'on existe. Bref, ces petits chimistes géniaux et ultra puissants sont, comme la plupart des êtres vivants, très occupés à survivre, et donc, ils métabolisent du soufre, du carbone, de l'azote, etc. Au cours de leur existence, certaines d'entre elles fabriquent des nuages.
Et oui. Mais comment ?
Eh bien, tout en s'occupant d'emprisonner les trois principaux gaz à effet de serre, ça s'appelle l'oxyde nitreux, le gaz carbonique et le méthane, donc cimère les algues, Ah oui, voilà, je voulais dire ça. Cimère les algues. Désolé pour la surcharge. Si vous pouviez dire à vos cousines qui habitent le corps des riches de la planète de les bouffer du dedans, histoire qu'ils se souviennent qu'ils sont en train de mourir, au lieu de défoncer tout ce qu'il y a de beau, on serait trop refaites. Enfin, je serais trop refaite. Mais bon, j'ai bien conscience que vous faites déjà beaucoup et donc c'est peut-être un peu abusé de vous demander ça. Alors comment, c'était ça la question, comment elle fabrique des nuages?
Oui.
Alors, c'est l'histoire de Primné, Dino et Prasi. Je leur ai donné des petits diminutifs.
Ouais, ok, d'accord.
C'est trois algues à qui on doit donc beaucoup, beaucoup de nuages. Nos trois héroïnes, Primné, Dino et Prasi, elles ont la particularité de produire beaucoup d'un gaz qui s'appelle le diméthylsulfure. On l'appelle le DMS. C'est un gaz de soufre. C'est lui qui donne son odeur à la mer. Chaque jour, Dino, Primné et Prasi, elles produisent une enzyme. Et c'est cette enzyme qui devient du DMS. Cette enzyme, elle sert à les protéger des chocs et ça leur permet d'ajuster leur volume cellulaire en fonction de la salinité de l'eau.
C'est leur doudoune, quoi, ou leur maillot de bain.
Ouais. Entre autres, parce qu'elles font plein de trucs, comme c'est des chimistes, quand même, qui font pas mal d'échanges chimiques et tout ça. Du coup, en fait, elles ont la particularité d'avoir un peu... je pense qu'elles auraient un peu comme une super combinaison, mais que tout le monde n'a pas, tu vois. Genre, peut-être il y a d'autres algues, elles aimeraient bien avoir leur combinaison, parce que ça sert... Et elle est assez pratique, mais elles ont une combinaison que peut-être les autres, elles n'ont pas.
Ok.
Et donc, c'est là qu'interviennent dans notre histoire d'autres héroïnes qui sont des bactéries. Et ces bactéries, elles consomment l'enzyme, la super combinaison. Parce qu'en fait, elles ont une sorte de combinaison jetable qui, qui est biodégradable, bien sûr. Et donc, grâce à cette combinaison jetable et biodégradable, il y a d'autres petites bactéries qui les récupèrent, qui sont trop contentes, et qui transforment cette enzyme en DMS. Les bactéries, elles font ça que quand il y a une quantité suffisante d'enzymes. Et donc, c'est pour ça que c'est des héroïnes, Primné, Dino et Prasi. C'est leur vrai nom, hein, en vrai. Je ne l'ai dit pas en entier. Il y a trop de mots déjà, non?
Ouais. À la fin, ça fait un nuage, c'est ça que c'est...
Attends, on n'a pas
fini. Ok, pardon.
Ouais, et alors, donc c'est là que, quand les bactéries, elles consomment, et donc elles fabriquent du DMS en consommant l'enzyme, et donc le DMS, ce qu'il fait, c'est qu'il devient du gaz qui se dirige de l'atmosphère vers, de l'océan vers l'atmosphère.
Il monte.
Voilà, il monte. Et comment est-ce qu'il joue un rôle crucial dans la formation des nuages? Eh bien, en fait, c'est le noyau de condensation pour la vapeur.
Ah, il agglomère.
Et donc, c'est là que... donc, il y a encore un autre mot compliqué, mais peut-être je le saute, j'ai l'impression que c'est déjà un peu trop compliqué.
Vas-y.
Des aérosols, on dira des aérosols. Donc, de soufre.
T'as deux niveaux, en fait, ici, hein, autour de la table. Je sais pas si
on parle de sulfure, sulfate, c'est que des gaz, des états différents du soufre. Et donc, ces aérosols forment les nuages, ils condensent, ils servent d'accroche à la vapeur d'eau. Et donc, les nuages chargés d'eau se forment, et c'est ce qu'on aime bien. Parce que c'est eux qui ont un bon pouvoir réfléchissant. Ils renvoient à la lumière des rayons solaires. Et ils augmentent donc voilà, cette histoire de radiations qui sont reflétées vers l'espace. Donc, en gros, ces nuages qui sont... produit par nos trois héroïnes et leurs petits potes, les bactéries, quand même.
Ouais.
C'est elles qui créent quasiment tous les nuages, des gros nuages de vapeur d'eau, enfin, sur
qui voilà. Se créent au-dessus des océans, quoi.
Oui, tout à fait. Et, Voilà, voilà. Je lis mes notes parce que...
Est-ce que je peux faire un peu le bruit de la mer pendant ce temps?
J'ai une petite question, si vous voulez, pour patienter. Quel est le poids d'un petit cumulus?
C'est très lourd.
Oui.
Ah ouais?
Oui. Tu veux essayer un truc, Anaïs? En tonnes.
Bah, oui, mais un petit cumulus, c'est-à-dire quelle taille de cumulus? Parce que...
Oui, enfin, bah, toi, tu es spécialiste. Bah, imagine quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, qui s'imagine un petit cumulus. Voilà, un petit cumulus.
Un petit cumulus qui passe, là, comme ça. Et ouais. Tout. Ok, bah, non, je ne suis pas spécialiste, mais... en tonnes?
Ouais.
5.
Ah non, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Ben... 25?
T'es pas très généreuse. C'est plus de l'ordre de 1000 à 2000 tonnes.
Waouh. Ben mais ouais. Ça, c'est genre le cumulus, quoi.
Oui, voilà.
Le gros, quoi. Celui qui monte, le cumulonimbus, comme ça?
Non. Un petit cumulus, quoi.
Un petit cumulus.
Un petit cumulus. Moi, dans ce que j'avais lu, qui était vachement moins poussé que toi, il y avait des... C'était un peu la base, quoi.
La base, ok. Ouais, ouais mais... Ok.
On peut revenir à tes histoires.
Non, mais on peut s'arrêter là, hein, si vous voulez. Non, ça va?
Non, c'est bien.
Ok.
C'était une petite intermède.
Ok.
Vous me dites quand j'arrête de faire la mer.
Donc, on a vu que... nos trois héroïnes, elles produisent ces nuages blancs qui ont cette capacité de détourner la chaleur du soleil. Et...
Et ben alors, moi, j'ai juste pas compris vers où il la renvoie, la chaleur du soleil, du coup?
Vers dans l'espace, en fait.
Dans l'espace.
Il fait ce truc du pouvoir réfléchissant comme un miroir.
Du coup, ça permet de descendre la température atmosphérique, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Entre autres. Et donc, on a parlé de la vie marine qui détermine la présence d'eau dans les nuages.
Mm-hmm.
Et on va parler de la vie dans les nuages. Et c'est l'histoire des cités dans les nuages. Alors, pendant longtemps, les nuages, ils ont été considérés comme, par les scientifiques comme juste des masses de vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère. Et en fait... on pourrait penser que c'est hyper hostile à la vie, les nuages. Mais en fait, il y a vraiment plein de micro-organismes qui y habitent.
Mais est-ce que vous savez qu'il y a des bactéries dans les nuages ? Je m'appelle Anne-Marie Delors, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Comment on récupère ces bactéries du nuage? C'est simple, on va simplement aspirer le nuage. Et on a une chance inouïe, c'est qu'on peut travailler à Clermont-Ferrand, au sommet du Puy-de-Dôme, il y a une station. On va mettre un matériau qui va permettre la condensation des gouttelettes de nuage sur ce matériau. Et en dessous, on aura un gros aspirateur qui va faire qu'on va récupérer cette eau du nuage dans un petit récipient. Et ensuite, on va amener ça au laboratoire et on va les cultiver, on va les récupérer, on va les identifier. Et maintenant, on a à peu près 1000 sortes de bactéries dans nos congélateurs sur lesquels on peut travailler, faire des expériences en laboratoire. Actuellement, on se pose tous la question du changement climatique. On sait que la Terre se réchauffe, mais on ne sait pas de combien. On n'arrive pas à prévoir ce changement de manière exacte. Une des raisons, c'est parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne le nuage. Or, un élément que peut-être on n'a pas considéré et qui est peut-être clé, c'est la présence de ces bactéries dans les nuages qui n'ont jamais été considérées. Alors peut-être que si on les considère, on comprendra mieux et donc on pourra mieux prévoir l'évolution du climat.
Et donc, il y a tout un monde qui habite dans les nuages. Il fait moins 5 degrés. C'est souvent en dessous de 0 degré la température. Il y a des substances oxydantes, du coup, plutôt qui détériorent la vie. Voilà. Mais donc, Anne-Marie Delors, qu'on a entendue, qui fait partie de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, elle est donc une équipe du CNRS qui travaille particulièrement sur les hauteurs du Puy-de-Dôme. Ils ont pu se rendre compte qu'il y a des bactéries vivantes, des champignons, des virus, des algues. Et en fait, ça les a hyper surpris qu'il y ait autant de vie. Mmh. Et donc ces micro-organismes, comment ?
J'avoue, moi aussi, ça me surprend.
Et oui, hein. Les micro-organismes, ils sont emmenés par le vent. Et grâce à leur capacité d'adaptation, il y a encore cette histoire de fabrication d'enzymes qui font qu'ils sont hyper résistants. Et donc, ils sont hyper forts parce que même, ils arrivent à transformer des composés toxiques en eau et en oxygène. Donc, en truc les plus nécessaires à la vie. Mais voilà, vu qu'on est des humains, on se soucie de notre petit cul. Et donc, on se rend compte...
Gros cul.
On se rend compte que, ils influencent en fait certainement beaucoup, beaucoup la météo. Et donc, il y a une nouvelle héroïne, et la dernière, je pense. C'est Pseudomonas syringae, qui fait geler l'eau plus facilement, autour de moins 5 degrés, et donc ça aide les gouttes à se transformer en cristaux de glace. Elles grossissent, elles s'alourdissent et elles tombent sous forme de pluie ou de neige.
Ah, pas de grêle, c'est quand même pas, parce que si, c'est quand même pas elle.
Et non. Ah, ouais. Elles influencent la formation des précipitations, elles participent à la régulation du climat en modifiant la chimie de l'atmosphère. Et voilà. Trop des chefs des grands équilibres climatiques. Et ainsi, il y a donc les bactéries qui font pleuvoir les nuages, et il y a nous qui essayons de faire ça aussi. Je vous laisse écouter une vidéo qui vient de France Inter, d'une émission qui s'appelle La Tête au Carré, sur l'ensemencement des nuages.
Que notre invité de lundi, là, Mathieu, la chercheuse de l'IRIS marine, ouais, du Guglielmo Weber à l'Observatoire Guerre et Climat, vient tout juste de faire sa thèse sur l'ensemencement des nuages.
L'ensemencement des nuages, on le fait dans une cinquantaine d'États dans le monde et ça se pratique en fait de manière routinière depuis les années 50. C'est un procédé qui a été découvert par les États-Unis en 1946. Et en fait, on le fait un peu partout dans le monde, soit pour augmenter les chutes de pluie, soit pour diminuer les chutes de grêle. En France, on le fait principalement pour lutter contre la grêle. C'est systématisé, donc il y a une très large partie des agriculteurs, c'est notamment des viticulteurs qui font ça de manière vraiment routinière.
Le tout sous la houlette de l'ANELFA, l'Association Nationale d'Études et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques, qui distribue à ses adhérents des générateurs qui ressemblent un peu à des cheminées d'un mètre de haut. Et quand il y a une alerte orage ou une alerte grêle, top, tout le monde est contacté 4 heures avant pour mettre les machines en route. Et voici comment ça marche.
Alors, l'idée, c'est que vous allez rajouter dans les nuages des composés chimiques. Donc, ça peut être soit ce qu'on appelle de l'iodure d'argent, soit des sels hygroscopiques. C'est des composés qui vont aller imiter la structure de la glace dans le nuage. Ça va faire comme de nouveaux noyaux de grêlons. Et comme vous en avez plus dans le nuage, l'idée, c'est que l'eau va se répartir sur un nombre plus grand de grêlons. Et donc, ça va permettre de faire tomber plus de pluie et moins de grêle au moment où les précipitations vont avoir lieu.
Donc c'est vraiment de la manipulation de la météo, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est une forme de manipulation de la météo. C'est de toute évidence le but de l'ensemencement des nuages, c'est de contrôler la météo.
Sauf que, en fait, devinez quoi ?
En fait, on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Ça fait 70 ans qu'on ensemence les nuages pour lutter contre la grêle. Il n'y a pas de résultat notable, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que ça permet de diminuer la grêle ou d'augmenter les chutes de pluie. Par contre, là où il y a une inquiétude vraiment à soulever, c'est sur l'impact des produits qui sont diffusés sur les écosystèmes, sur les sols, dans les eaux, où là, vraiment, tout est à faire en matière d'études, notamment écotoxicologiques, puisque les personnes qui mènent ces pratiques ne font aucune étude d'impact pour s'assurer que ça n'a pas d'impact sur la biodiversité.
C'est pas du tout encadré par l'État,
ça n'est pas encadré. Et
du
même
tout par l'État, rien.
Non, pas du tout. Et même le plus souvent, cette association, du coup, qui est implantée dans les régions ou les départements, va être financée soit par le conseil régional, soit par le département, sans aucune réglementation.
Youhou ! Bienvenue au Far West des nuages.
Ce n'est pas anodin et qu'on joue peut-être aux apprentis sorciers.
Alors là, c'est l'écrivain et ancien avocat Mathieu Simonet, auteur de La fin des nuages, qui milite pour un droit des nuages.
Puisque les nuages n'appartiennent à personne, ça serait bien de se poser la question comment on régule le fait que c'est un bien commun. Donc ça serait à l'ONU de le faire. Je ne comprends pas pourquoi le sujet, pour l'instant, n'est pas rentré dans le débat public. Parce qu'effectivement, quand on en parle, tout le monde se dit « mais c'est fou, Souvent, les gens pensent que c'est de la science-fiction.
Alors que pas du tout, donc, hein, c'est bien une réalité depuis 70 ans, je le rappelle, avec des doutes donc sur son efficacité, sur ses impacts sanitaires, mais aussi des enjeux géopolitiques avec de possibles vols de nuages.
Aujourd'hui, tout le monde peut manipuler les nuages qui sont au-dessus de son territoire, et on peut se demander si ceux qui vont finalement s'approprier les nuages, est-ce que ce ne sont pas ceux qui seront les plus performants au niveau technique? Et quand on sait qu'en Chine, on a investi $1 milliard en 5 ans sur l'ensemencement des nuages, on peut se demander si les pays les plus riches ne vont pas un jour maîtriser les nuages, non pas parce qu'ils en seront propriétaires, mais parce qu'ils auront la technique.
L'Iran a déjà accusé les Occidentaux de provoquer des sécheresses comme ça, donc en s'appropriant les nuages. Les États-Unis aussi auraient utilisé la technique pendant la guerre du Vietnam, opération Popeye. Dans ces cas-là, c'est pas les petites cheminées d'ailleurs, hein, c'est plutôt des avions ou des ballons qui larguent les composants directement dans les nuages. Cela dit, le programme chinois dont parlait Mathieu Simonet, c'est des champs gigantesques de générateurs d'ensemencement, donc les petites cheminées. Et si vous pensez qu'on est quand même moins au taquet en France, eh ben détrompez-vous.
La particularité d'ensemencer avec un générateur, c'est que ça n'est pas une action individuelle. Contrairement à l'action avec un avion ou avec un ballon, là l'idée c'est de faire une sorte de dôme de protection quasiment à l'échelle d'une région ou un département.
Et ça se voit à l'œil nu ?
Non.
Donc en fait les gens peuvent être ensemencés à leur insu.
Ah bah oui, tout à fait. Nous sommes continuellement ensemencés à notre insu, ça c'est une certitude.
Et oui, voilà.
Ok.
Et petite pensée à New Delhi, qui cet automne, enfin pour eux c'est pas l'automne, mais en tout cas à ce moment de l'année, se retrouve à étouffer. Les gens de New Delhi meurent beaucoup, c'est une des principales villes où les gens meurent de la pollution. Et donc les personnes étouffent dans ce nuage de pollution. Et donc ils ont fait des tests pour en envoyant du nitrate pour essayer de faire tomber la pluie. Ça n'a pas marché finalement parce que ils se sont rendu compte que si les nuages étaient constitués de pollution et non d'eau, finalement ce procédé était
ah oui, il pouvait pas pleuvoir quoi, il y a pas d'eau, voilà. Il y a que de la pollution.
Et voilà, la technologie va peut-être pas nous sauver. Et donc on va écouter une artiste que je vous encourage à aller découvrir, qui est une vocaliste et instrumentaliste francophone qui s'appelle Petite Sœur, qui a aussi créé un alias qui s'appelle Room One, où elle poste un EP en 2023 de 3 titres. Elle est en train de cartonner. Elle a fait partie du collectif Read More et elle travaille beaucoup avec un autre artiste qui s'appelle Femme To Go. Et elles ont sorti plusieurs albums ensemble. Voilà, et donc ce morceau s'appelle Malkout.
Et le lien, pourquoi est-ce qu'on écoute ce morceau?
Eh, parce que j'avais trop envie de mettre un morceau de rap, en fait. Et,
trop bien.
Et parce que elle parle de nitrate dedans.
Ok.
Tous les jours de ma corvée, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. Pas de Maybach, ils se lèvent, j'ai layback. J'pars avec le nitrate et du gaz dans un great bay. Ils font payback, l'argent ça paye pas. J'embaucherai un sosie qui viendra faire du playback. Pitié, parle-moi, encore un petit peu. Tes grands investissent dans l'amour qu'à boire un petit peu. Et eux marchent comme s'ils se fichaient de ce qu'a brandi Dieu. À l'étroit dans un corps comme si j'en ai grandi deux. Pas de Maybach. J'pars avec le nitrate et du gaz dans un great bay. Ils vont payback, l'argent ça paye pas. J'embaucherai un sosie qui viendra faire du playback. Pitié parle-moi, au moins de temps en temps. C'est les mêmes voix depuis petit, je les ai temps en temps. Devenir parfait dans mon bâti sur des lacs finales. Si j'pars c'est pas sans faire brûler l'ange qui n'a qu'une aile. Il croit capter le message, c'est que l'écho du fond du tunnel. De croix sur mon bras, une croix sur la carte. L'aparté qui résonne encore au palier de l'appart. Croise un regard dans la glace comme entre deux vieux partenaires. Je sors quand il y a l'orage, ma rage grimpe au sommet du partenaire. À 8 ans, je voyais pas les 12. À 12 ans, je voyais pas les 20. À 20 ans, j'en vois le bout qui vient m'attraper par les mains.
Dis-moi, y'a qui dedans? Dis-moi, y'a quoi dehors? Jamais j'ouvre, ils font tous des pas de loup autour de ma demeure. Et mon amour se meurt pour toi, assis au pied de la porte fermée. Ils se moquent souvent de moi dehors. Rien, 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 pas de Maybach, ils se lèvent, j'ai layback. J'pars avec le nitrate et du gaz dans un great bag. Ils vont payback, l'argent ça paye pas. J'embaucherai un sosie qui viendra faire du playback. Pitié, parle-moi, au moins de temps en temps. C'est les mêmes voix depuis petit, je les ai tant entendues. Devenir parfait dans le monde bâti sur des lacunes. Si j'pars, c'est pas sans faire brûler l'ange qui n'a qu'une aile.
Ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le chien. Le but.
Et voilà, c'est le moment de se dire ciao, bye bye.
Au revoir. Ciao.
Et un nuage passe.
Mais avant.
Oui. Et voilà, on avait parlé de Manifeste des nuages au tout début, et donc ben voilà, on tenait quand même à vous transmettre
ce qu'ils nous ont dit, quoi.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire par quelle technique ils nous ont dit ça?
Non, je pense non. Qu'il vaut mieux qu'on le taise.
Ok.
Si vous voulez vraiment savoir ce qu'ils ont à dire, vous trouverez, je pense.
Ouais.
Au début, on n'était pas nombreux. Il y avait la brume et le brouillard et on voulait surtout avoir la paix. Aller où on veut. Vous voulez tout contrôler. Et nous, on vous dit ça suffit. Ce qui se passe, c'est que nous, on est là. Et grâce à nous, le temps change. Les temps changent. Les choses se transforment.
Nous sommes le mouvement. L'expression d'un nous. La somme de milliards de petites volontés qui luttent côte à côte pour transformer. Se transformer en ce qu'on veut. Cacher ce qu'on veut, qui on veut. Se rassembler, s'arrêter devant les falaises, changer de niveau.
On revendique le droit de squatter les ciels et d'être ni accaparé, ni forcé pour partir ou rester. On revendique le droit d'exister sans que les humains s'en mêlent. Considérez-nous tels que nous sommes, au-dessus de vous. Nous qui apportons l'eau après les sécheresses. Élevez-vous à notre hauteur. Soyez humide, fluide, liquide, évaporé, concentré, ensemble.